idées d'entreprendre, l'actualité de l'économie locale avec jour8.com.
Bonjour à tous, envie d'entreprendre, saison 4, épisode 5. Alors, je suis sûr que vous connaissez toutes et tous Nathalie Candalo. Eh bien, moi non plus. Je ne connaissais pas son nom avant que je prépare cette émission. Nous devrions pourtant. Nathalie Candalo a débuté sa carrière dans des grands groupes d'agroalimentaire et d'impression. Elle est aujourd'hui la patronne de la holding Agiliteam, née de la reprise de l'entreprise ADB implantée près de Tarbes, spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques de précision pour l'aéronautique et le médical, et du rachat des sociétés Lubat et Precitec. Eh bien, figurez-vous que Nathalie Candalo a décroché à Cancun le trophée mondial de la femme entrepreneur de l'année 2016 dans une catégorie industrie et innovation qu'on croit réservée aux hommes. Mais c'est vrai que dans la presse ces dernières semaines, on a probablement beaucoup trop parlé d'une femme qui aurait travaillé beaucoup trop discrètement pour beaucoup trop cher. Il y a pourtant beaucoup d'autres femmes qui ne comptent pas leurs heures sur leur lieu de travail et avant et après dans leur foyer. En France, les lois se sont multipliées depuis 1945 pour donner plus de droits aux femmes. Du droit de vote à l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire et même, j'avoue, je l'ai découvert, de travailler sans demander l'autorisation de leur mari. Mais vous ne pensez pas que devoir légiférer sur les droits et les places accordées aux femmes montre un véritable problème de société? Cela signifie donc que les évolutions, si minimes soient-elles, ne sont pas naturelles. Les hommes continuent à se voir attribuer plus de responsabilités, ils sont trois fois plus nombreux à être cadres dirigeants. Et sur les entreprises du CAC 40, seulement 3 sont dirigées à ce jour par une femme. Alors, bon, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a quand même des frémissements positifs. Le nombre de femmes chefs d'entreprise augmente. Peut-être qu'enfin, la lente mutation des mentalités commence à donner quelques fruits. Aujourd'hui, nous leur donnons la parole dans cette émission. Elles sont consultantes, architectes, éditrices, opticiennes, graphistes, industrielles, concierges, experts comptables. Toutes ces femmes chefs d'entreprise, mais aussi mères de famille, impliquées dans des associations, fières de ce qu'elles créent, développent et offrent chaque jour sur le territoire. Pour terminer mon édito et nous faire réfléchir, je vous propose une citation de Stendhal, qui, je vous le rappelle, a vécu dans la première moitié du XIXe siècle. Prenez un stylo et notez. « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » Et comme aurait dit ma prof de philo, vous avez 4 heures.
Une petite brève pour continuer, au plateau d'Albion, les anciens sites nucléaires ont été en bonne partie reconvertis. À Rustrel, par exemple, le poste de commande de tir des missiles nucléaires, situé à 500 mètres sous terre, est devenu depuis 1998 un LSBB, ce qui veut dire laboratoire souterrain à bas bruit. Par bruit, il ne faut pas entendre son, mais nuisance électromagnétique. Au cœur du LSBB, ce que l'on nomme la capsule, une chambre blindée de 1230 mètres cubes, totalement protégée de toute interférence. 250 chercheurs venus des universités d'Avignon, Nice ou Aix-Marseille, mais aussi du CNRS ou de pays étrangers, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Afrique du Sud, viennent y profiter de conditions acoustiques et électroniques exceptionnelles. On y mène des recherches dans le domaine de la sismologie, de l'hydraulique ou de la physique des particules. On y étudie par exemple les ondes gravitationnelles ou la supraconductivité. À noter, lors des journées du patrimoine en septembre, ce lieu étonnant est visitable, qu'on se le dise.
Autre brève, la qualité de la fraise de Carpentras est largement reconnue bien au-delà de nos frontières, or un bijou qu'on ne protège pas est copié. C'est une phrase issue du discours de Francis Adolphe à la fin du mois de janvier dernier, lors de la signature d'une charte de défense et de promotion du petit bijou rouge et sucré entre la ville de Carpentras et la confrérie de la fraise de Carpentras et du comte Venessin. Après le dépôt de la marque auprès de l'INPI, la création d'un logo, c'est la suite logique du processus de protection qui aboutira dans les mois qui viennent à la création d'une IGP, indication géographique protégée, pour ne plus trouver sur nos étals des fraises de Carpentras produites à Toulouse. On peut d'ores et déjà vous dévoiler qu'on vous en dira plus le mois prochain dans l'épisode 6 d'Envie d'entreprendre. Alors restez à l'écoute.
Regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, je n'ai pas toujours été sûr. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là.
Bien, pour commencer ce dossier consacré aux femmes entrepreneurs, voici le portrait et l'interview de Béatrice Darcas, qui co-dirige l'entreprise des Ateliers Bio de Provence.
Vous avez créé et vous co-dirigez avec votre mari la société Ateliers Bio de Provence, installée à Carpentras. Quelle est l'origine de ce projet commun ?
Alors, après 10 ans de parcours professionnel dans différentes entreprises, mon mari et moi-même avons eu l'opportunité de racheter une petite entreprise qui était basée à Uzès. À l'époque, il y avait 3 personnes. Alors, on a eu tous les deux l'envie d'entreprendre. Je pense qu'on était jeunes, ou en tout cas, on était plus jeunes. Donc, le risque ne nous a pas paru insurmontable. Et on a mis nos économies dans cette aventure.
Quelle est l'activité de votre entreprise ?
Alors, nous fabriquons des pâtes et des raviolis fraîches biologiques. Nous sommes 100% bio, nous n'avons que du biologique dans notre entreprise. Ça a été un choix dès le départ. Donc, nous avons des raviolis principalement à base de légumes ou de légumineuses. Nous avons une raviolie au bœuf. Le reste, c'est vraiment des produits de la région avec des recettes provençales. Nous avions des raviolis chèvres ciboulettes, des raviolis aux aubergines, etc. Des quenelles, des lasagnes, des gnocchis, et tout est frais.
Quels sont vos clients et, sans dévoiler vos secrets, la stratégie de développement d'Ateliers de Bio de Provence ?
Le bio a vraiment le vent en poupe là depuis quelques temps. C'est extraordinaire, on est porté par cette vague. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même de tout le monde sur le bio. Et maintenant, c'est vraiment un produit qui touche énormément de gens. Tous nos clients se développent, il y a une vraie prise de conscience de tout le monde monde sur le bio. Le bio n'est pas que réservé aux bobos, comme disent certains. Le bio, aujourd'hui, ça touche vraiment tout le monde. Ça donne du sens à beaucoup de gens.
Vous insistez beaucoup sur les valeurs de votre entreprise, que celles-ci soient environnementales, sociales et économiques. En quoi celles-ci sont importantes pour vous ?
Alors évidemment, vous avez reconnu les trois piliers du développement durable, hein. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une aspiration profonde qui se traduit chez nous au quotidien, dans nos actions, dans nos décisions. C'est vraiment une volonté.
Et vous avez, me semble-t-il, une approche managériale qui met l'humain au centre du jeu.
Alors, évidemment, parce que cela a du sens, nous accueillons des apprentis, nous avons des stagiaires de tous niveaux, sur des durées plus ou moins longues, des travailleurs handicapés. On est aujourd'hui 24, on était 3 à l'origine, on a une grande fierté parce qu'on a très peu de turnover, quasiment pas, et nous formons énormément nos salariés afin de développer leurs compétences en même temps que l'entreprise.
Très intéressante l'analyse de Béatrice Darcas de l'atelier bio de Provence de Carpentras sur cette approche du bio qui doit être considérée comme universelle et non plus seulement réservée à quelques-uns. Un petit changement d'univers maintenant. On va d'abord voyager un peu avec notre prochaine invitée, Geneviève Bang, qui après avoir passé quelques années à La Réunion est revenue s'installer dans le Comtat.
Geneviève Bang, vous êtes chef d'entreprise sur Carpentras après avoir dirigé une entreprise à La Réunion. Parlez-nous de vos différentes expériences. Êtes-vous toujours resté dans les mêmes secteurs d'activité ?
Alors, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en cabinet d'expertise comptable, de formation comptable. Et c'était pas assez concret pour moi. C'était du passé. On comptabilisait le passé. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'avenir de l'entreprise. Donc, je suis passée en entreprise, dans une entreprise de bâtiment. Puis, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une TPE et de le racheter. On était une dizaine de salariés. Ça a été une superbe expérience et à La Réunion. Et je l'ai revendu cette entreprise il y a maintenant 4 ou 5 ans. Oui, c'est ça, 5 ans que j'ai revendu cette entreprise pour m'installer dans le Vaucluse.
Et maintenant, quel type d'activité avez-vous ? Une activité de conseil, je crois.
Oui, effectivement. Bon, après avoir créé mon entreprise, la faire prospérer, j'ai voulu faire bénéficier de mon expérience les chefs d'entreprise, des TPE. Et j'ai rejoint le réseau Expert Active pour la région du Vaucluse. Et j'apporte donc du conseil et des méthodes pour le développement commercial de leur activité.
Quelles sont les qualités qui ont fait votre réussite dans le management de votre équipe à La Réunion ?
Bon, je pense que c'est beaucoup d'écoute. J'ai pris conscience il y a très longtemps que un chef d'entreprise qui dit « mon entreprise », eh ben, ça va pas durer longtemps. Et le chef d'entreprise qui parle de notre entreprise, eh ben, il réussira à motiver son équipe, à donner un sens à ses collaborateurs, le pourquoi il se lève le matin et pourquoi il vient travailler et faire prospérer leur entreprise.
La vision et l'approche du management sont-elles différentes entre un homme et une femme pour vous ?
Alors, pour moi, certainement pas. Nous sommes tous la moitié de, enfin, les hommes et les femmes la moitié de l'humanité. Mais bon, concrètement, c'est vrai que en tant que chef d'entreprise femme, je suis souvent toute seule ou accompagnée d'une ou deux femmes au milieu de plusieurs messieurs. Mais bon, c'est toujours avec plaisir et c'est à nous, femmes, de plus nous investir dans le réseau, dans l'activité économique.
Et d'ailleurs, ça rejoint ma question suivante. C'est dans un monde qui est toujours très masculin. Qu'est-ce qui tente une femme à se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise ?
Je pense que c'est pareil que les hommes, c'est de vouloir un petit peu relever des challenges, construire son bébé, le voir grandir et le transmettre après. Donc ça, c'est la même chose.
Vous êtes très impliqué dans les réseaux d'entreprises comme le RIL, Carpent Sud, les FCE, femmes chefs d'entreprise. Que retirez-vous des contacts que vous nouez avec tous les gens que vous rencontrez ?
Alors des bons moments de partage. On est tous un petit peu des chefs d'entreprise tout seuls le matin et toute la journée à relever des défis. Partager ces moments-là avec d'autres chefs d'entreprise, ça apporte beaucoup. Et moi, venant d'un département très loin, ça m'a permis de rencontrer des gens, au niveau de mes affaires, de pouvoir m'installer et de développer mes affaires.
Après donc Geneviève Banque, nous allons maintenant écouter le point de vue d'Isabelle Roustan, une architecte bien connue sur la place de Carpentras, qui a aussi un certain nombre, elle aussi un certain nombre de responsabilités associatives.
Isabelle Roustan, dès votre diplôme en poche, vous avez gardé votre indépendance en travaillant en profession libérale et non en tant que salariée. Est-ce un vrai choix ?
Alors, ça a été un choix parce que à l'époque, ma situation familiale était un petit peu compliquée. Donc, j'ai pas mal bougé, je me suis beaucoup déplacée et j'avais trouvé ce moyen-là d'être indépendante pour pouvoir aller dans diverses structures. Ça m'a permis de découvrir diverses organisations. J'y suis allée en tant qu'infographiste, donc en fait, je venais avec mon matériel informatique et un logiciel 3D que je maîtrisais bien à l'époque. Et je faisais beaucoup de rendus, de concours, des mises en situation, des insertions paysagères.
Et au bout de 5 ans, vous avez créé votre propre structure.
Alors oui, au bout de 5 ans, je suis arrivée sur Carpentras, je suis revenue à Carpentras parce que les méandres ont fait que difficulté de trouver un appartement en étant indépendante, débutante. Donc je me suis retrouvée sur Carpentras à revenir un petit peu chez ma maman. Et j'ai commencé à travailler localement, à tisser des liens. Et par la suite, petit à petit, les choses se sont développées assez rapidement, de fil en aiguille. Et je suis restée sur Carpentras.
Vous y avez créé l'agence Architecta. Quelles sont les caractéristiques particulières de cette agence par rapport à un cabinet plus classique ? Je dirais à la fois dans vos activités et encore plus dans votre approche de l'architecture.
Alors déjà, on peut dire que dans un premier temps, Architecta aujourd'hui, c'est 11 personnes. Et c'est déjà une grosse structure par rapport à d'autres cabinets d'architectes qui sont plutôt 2-3, c'est-à-dire 2 architectes associés plus une secrétaire en société de moyens ou un dessinateur qui les aide ponctuellement. Moi, j'ai souhaité élargir un petit peu l'équipe par le choix de recrutement où j'ai commencé à recruter des gens qui avaient surtout envie de travailler au départ et pas forcément des gens qui étaient issus du milieu du bâtiment. Donc, ça veut dire que ma première salariée, ça a été la nounou de mes enfants à qui j'ai appris à dessiner. Donc, je lui ai appris AutoCAD, je l'ai formée sur Photoshop. Au départ, elle était rentrée pour faire du secrétariat et puis elle a appris bien d'autres choses. Et aujourd'hui, elle travaille au service technique de la mairie de Carpentras.
Et vous avez une approche particulière de l'architecture en développement durable ou vous faites du traditionnel ?
Alors, l'approche de l'architecture que l'on a, je vais me définir comme un architecte du quotidien, un peu comme le médecin généraliste. C'est-à-dire qu'on fait, on touche à tous les domaines. Par contre, on intervient sur des dossiers, sur des projets où il y a très 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 peu de budget qui permettent de faire vraiment des gestes architecturaux. Donc ça, malheureusement, on n'a pas tellement la possibilité d'en faire. Par contre, notre approche, c'est de dire que tout ce qu'on peut faire comme petit geste supplémentaire qui peut agrémenter le côté ludique ou le côté agréable, confort, que ça soit visuel, au niveau du choix des matériaux, acoustique, tout ça, on essaye d'agrémenter le plus possible nos projets, mais pas dans la forme architecturale elle-même, plus dans les aménagements.
Et vous avez aussi une démarche développement durable qui est de travailler énormément en local.
Alors oui, c'est un double choix, c'est-à-dire que on veut travailler en local parce qu'évidemment c'est plus simple, c'est plus facile et c'est beaucoup plus efficace. En plus, bon, on connaît quand même bien le tissu local, le climat, ce qui est quand même très important en architecture, et on connaît aussi bien le tissu d'entreprise, donc qui peuvent nous aider après à réaliser nos projets. Ça aussi, c'est important de pouvoir travailler avec des gens qui on a confiance, que l'on connaît. Alors l'autre idée du local, c'est aussi une démarche effectivement plus environnementale. Où on essaye de diminuer au maximum notre empreinte carbone, donc nos déplacements, covoiturage. On essaye de, tant qu'on pourra travailler en local autour de l'agence, autour de Carpentras et dans le Vaucluse, on le fera.
Et comment arrivez-vous à vous affirmer dans un secteur d'activité qui est quand même très masculin ?
Alors, c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de femmes, que ce soit architectes, architectes d'intérieur ou même dans les entreprises, chefs d'entreprise du bâtiment. Alors moi je dirais que moi je regarde surtout le côté professionnel des choses. Alors la sectorisation masculin-féminin, j'ai jamais rencontré de problème. Je crois qu'il faut pas jouer sur la différence, mais jouer sur la complémentarité et ça se passe. J'ai jamais rencontré de difficulté à ce niveau-là.
Et vous avez vous-même une équipe très féminine. Est-ce que c'est une des particularités d'Architecta ou c'est un hasard ?
Alors c'est effectivement de toute façon une particularité d'Architecta. mais c'est vraiment pas voulu. À une époque, on était même 100% féministe. On s'est fait taxer de sexiste, mais c'est pas du tout une volonté, ça l'a jamais été. On essaye de recruter des garçons, donc nous c'est un petit peu, on est plutôt à l'inverse de la tendance de ce secteur-là. Par contre, peut-être il se peut que, étant donné que je suis une femme chef d'entreprise dans le bâtiment, ça donne peut-être plus confiance à des jeunes architectes de venir me rencontrer et de vouloir travailler avec moi, plutôt que de aller dans un cabinet strictement masculin où il y aurait peut-être d'autres problèmes un peu différents de hiérarchisation ou je sais pas.
À noter aussi qu'Isabelle Roustan, qui vient de nous parler de l'agence Architecta, est la créatrice et la présidente de l'association Zik en Piste, qui a pour objectif de promouvoir les arts du cirque et les arts vivants sur le Comta. Comme quoi, il y a bien une vie à côté de l'entreprise. Personnellement, j'apprécie beaucoup ces parcours qui ne sont pas forcément linéaires, mais qui conduisent à de belles réussites professionnelles. Et c'est également le cas de notre prochaine invitée, Laurence Duvillard, opticienne, qui, au fil de ses formations et expériences, a construit avec son associé, E.E., un beau réseau de points de vente dans le Vaucluse.
Laurence Duvillard, vous êtes chef d'entreprise, propriétaire avec votre associé de magasins d'optique sur Apt et Carpentras, et depuis peu d'un troisième sur Avignon. Quel est votre parcours ?
Oui, alors, mon parcours est d'abord assez classique. En fait, j'ai fait un BTS d'optique par alternance. Il y a donc un petit peu plus de 20 ans de ça. Je suis dans un opticien traditionnel qui m'a donc appris les bases de mon métier. Suite à ça, comme c'était quand même un petit magasin et que j'avais envie de voir du monde et de travailler en équipe, j'ai commencé à travailler chez Grand Optical, qui était à l'époque l'opticien qui fabriquait les lunettes en une heure. Donc, ça m'a aussi donné l'occasion de savoir comment on fabriquait des verres de lunettes. Donc c'était assez passionnant, j'y ai passé 15 ans, j'ai suivi énormément de formations et j'ai pu gravir les échelons en interne jusqu'à devenir directrice de magasin, tout en faisant un peu le tour de France, puisque bon, je suis allée à Montpellier, à Grenoble, à Lyon, à Paris, à Perpignan, et j'ai fini donc chez Grand Optical à Avignon, au Pontet. Pendant cette période-là, j'ai pu aussi faire un fonds gestif, donc je me suis absentée de mon poste de travail pendant 10 mois pour passer un BTS de comptabilité gestion en 2006, avec vraiment l'idée derrière d'avoir les armes pour pouvoir créer mon entreprise. Donc suite à ça, j'ai continué à exercer mon poste de directrice de magasin au Grand Optical du Pontet, tout en étudiant plusieurs possibilités d'ouverture ou de rachat de magasins d'optique, jusqu'en 2011 où s'est présentée la vraie opportunité qui a été donc d'ouvrir un magasin en création sur Carpentras en franchise générale d'optique. J'ai monté donc cette entreprise avec une associée, Agnès Latil, qui a à peu près le même parcours que moi puisqu'elle a passé 20 ans chez Grand Optical. Donc du coup, on se connaissait essentiellement dans le travail. On est devenus amis par la suite, mais au départ, c'était vraiment une association de travail. Du coup, très naturellement, comme on était deux, on a monté un deuxième magasin sur la ville d'Apt en 2013, toujours en franchise générale d'optique, la fin des lunettes chères, toujours pour la même raison, il n'y avait pas le même positionnement, enfin ce positionnement-là sur la ville d'Apt. Et puis là, tout récemment, on vient de racheter un magasin existant qui avait lui une enseigne Grand Optical. Et là, on a donc tombé l'enseigne et on va faire un magasin traditionnel.
Pourquoi choisir de se développer par création et rachat de magasins plutôt que de se concentrer sur un seul espace de vente?
Ça a été un peu le hasard et le gré des opportunités. Le hasard a fait que c'est vrai qu'avec Agnès on s'est associés, comme je disais tout à l'heure, on a le même parcours, la même sensibilité client, la même notion de service. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire d'opportunité. Il faut avoir l'envie et puis suivre un peu les pistes qui s'ouvrent à soi. Puis finalement, quand ça doit se faire, ça se fait.
Vous êtes opticienne et passionnée par votre métier. Ayant maintenant 3 entités à gérer, ne craignez-vous pas de vous éloigner de votre métier d'origine et peut-être de vos clients et de tenir un rôle plus orienté gestion ?
Évidemment, je vais avoir un rôle très orienté gestion. Maintenant, je le crains pas puisque c'est vraiment un souhait. Dans notre association avec Agnès Latil, on a vraiment des missions et des rôles bien définis. Et c'est vrai que le mien est quand même beaucoup plus orienté sur la gestion du personnel, la gestion tout court, l'organisation. Et elle est quand même très orientée sur tout ce qui est management, donc client, qualité, choses comme ça. Donc en fait, nos rôles sont bien définis dès le départ. Donc tout naturellement, je crains absolument pas de m'orienter plus vers la gestion.
Et la profession d'opticien, longtemps masculine, se féminise de plus en plus et devient un véritable acteur de santé de proximité, notamment face au phénomène de désertification médicale. Et que diriez-vous à une jeune fille qui aujourd'hui souhaite s'orienter vers des études d'optique?
Alors, c'est vrai que la profession d'opticien se féminise. Elle a toujours été quand même très féminine. Ça est toujours pas loin d'être moitié-moitié. Là, aujourd'hui, on est plus aux alentours de 55, peut-être 60% de femmes qui travaillent dans les magasins d'optique. Par contre, en termes d'entrepreneuriat, on reste quand même les femmes finalement très minoritaires, puisque les hommes sont plus aux alentours de, allez, entre 60 et 70% d'hommes qui s'installent et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ce que je dirais à une jeune fille qui souhaite faire ses études dans ce domaine-là, je lui dirais de pas hésiter, parce que franchement, c'est un métier qui est passionnant, qui comporte plusieurs facettes. Il y a le côté technique, donc avec le laboratoire, on fait les montages. Il y a la mode, parce que c'est vrai que c'est un accessoire de mode aujourd'hui, les lunettes. Il y a le contact client, donc on peut vraiment s'éclater avec ses clients, et c'est vrai que c'est super sympathique. Et puis on peut travailler en équipe, donc être nombreux, enfin travailler dans des magasins où on est nombreux. Donc c'est un métier aux multiples facettes dès le départ. Et puis il permet aussi d'évoluer à son rythme. C'est-à-dire qu'une jeune fille peut démarrer un métier en alternance, donc en tant qu'apprenti, avoir son diplôme, apprendre au fur et à mesure. Le jour où elle a envie de s'installer, elle peut s'installer, se mettre à son compte, devenir entrepreneur. Et puis, le jour où, en effet, elle peut avoir un magasin, deux magasins, trois magasins. Donc, c'est une autre échelle de l'entrepreneuriat, mais c'est un métier qui peut être très évolutif.
Baby, didn't know before what I was facing.
Eh bien, après ce titre de l'excellent dernier album du batteur Marc Serron, nous allons maintenant écouter une autre femme chef d'entreprise. Il s'agit de Carole Apak, qui est la patronne de Ventoux Magazine.
Bonjour, je m'appelle Carole Apak et je suis la directrice de publication de Ventoux Magazine depuis 2010.
Alors, qu'est-ce que c'est que Ventoux Magazine ?
Alors, Ventoux Magazine, c'est un magazine de territoire qui existe depuis bientôt 10 ans. Donc, d'ailleurs, on va fêter nos 10 ans cette année, en 2017. Et l'idée de base du magazine, c'est de parler de notre région, bien entendu, tout autour du Ventoux. Et on va même un peu plus loin en parlant du Vaucluse et de la Drôme provençale qui sont limitrophes. On parle des personnes, du patrimoine, de la culture, de l'agriculture, des savoir-faire en général. La nature, ça fait partie aussi d'un de nos sujets de prédilection.
Il y a des visuels, des photos qui sont absolument magnifiques. Vous travaillez, vous avez un soin tout particulier à tout ce qui est dimension, image.
L'image, c'est effectivement un point important pour nous. On a 2 photographes professionnels qui travaillent régulièrement avec nous. C'est pour ça qu'on peut se permettre de développer des visuels sur, par exemple, des doubles pages avec des belles photos, des belles images de la région et des savoir-faire régionaux.
Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain numéro et quand va-t-il sortir ?
Alors le prochain numéro, donc c'est le premier numéro de 2017 qui paraîtra donc pour le printemps vers la mi-mars. Dans ce numéro, on développe plusieurs sujets. On va parler notamment de la très très prochaine accession à l'IGP pour la cerise du Ventoux. Donc qui devrait être attribué pour la nouvelle saison. On va parler également de savoir-faire artisanaux puisque on est allé rencontrer 2 fabricants d'orgues de Barbarie, l'un qui est à Crillon-le-Brave et l'autre qui est à Pernes-les-Fontaines. Et également un sujet un peu plus insolite, on a découvert un fabricant d'un instrument qui s'appelle le Sound Circle et qui est basé à Sablé, qui est plutôt un instrument percussion et qui est fabriqué à partir de bouteilles de gaz. Donc une rencontre intéressante et à découvrir dans le prochain magazine.
Où est-ce qu'on peut se procurer Ventoux Magazine ?
Ventoux Magazine, il est vendu en kiosque, donc comme la presse traditionnelle, dans le département de Vaucluse, en Drôme provençale aussi, et puis on peut évidemment être abonné pour recevoir donc les 4 numéros par an de Ventoux Magazine.
Dans votre vécu de directrice d'un magazine, dans votre vie professionnelle, comment vous avez vécu le fait d'être à la fois femme et entrepreneur ? Est-ce que ça fait une différence ou est-ce que ça fait pas de différence ?
En théorie, ça devrait pas faire de différence et la plupart du temps, ça n'en fait pas. J'ai envie de positiver en disant que, en réalité, ça peut être un atout parfois. Parce que évidemment, ben on a peut-être plus de facilité et plus de d'aisance relationnelle avec les gens. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment à moi. C'est un atout aussi évidemment parce qu'il y a toujours une notion, j'ai envie de dire pas forcément de séduction, mais de contact qui est intéressante aussi quand on est une femme. Mais dans les faits, c'est sûr que mener de front une activité professionnelle en tant que chef d'entreprise, même si là on parle, il faut rester modeste, on parle d'une petite entreprise, mais et une vie de femme, c'est-à-dire épouse, mère, c'est pas forcément facile tous les jours. Il faut gérer tout ça, mais on y arrive. La preuve, il faut juste travailler peut-être un petit peu plus que certains messieurs, excusez-moi Pierre, que certains messieurs qui ont leur travail à gérer et puis le reste se fait un peu plus tranquillement à la maison. Voilà.
Comme le dit Carole Apak, il y a beaucoup beaucoup de travail, sûrement plus d'ailleurs pour une femme que pour un homme, puisqu'effectivement elle le dit, il y a la maison, mais on a aussi l'habitude de dire qu'à côté de l'entreprise, il y a d'autres vies. Et notre prochaine invitée, Sandra Vic, graphiste et dirigeante de l'agence Basilic, a toujours été très active dans les réseaux d'entreprises du Vaucluse. Après Initiative Ventoux, le comité de bassin d'emploi Ventoux, elle est devenue le mois dernier présidente des femmes chefs d'entreprise du Vaucluse, association plus connue sous le nom de FCE Vaucluse. Sachez quand même que les FCE, c'est une association mondiale. Et vous vous rappelez Nathalie Candalo? Oui, oui, vous la connaissez maintenant. Je vous en ai parlé dans l'édito. Eh bien, c'est une adhérente FCE de sa région. On écoute Sandra Vic.
Je suis graphiste. Je suis graphiste depuis fort longtemps, en fait, en ayant eu un grand-père graveur sur pierre, un père plumiste, et moi qui ai changé d'outil au passage. J'ai créé Postscriptum maintenant, il y a 14 ans. Et voilà, c'est toujours un même bonheur. Je suis de formation typo, quelque chose d'extrêmement classique à la base. Et je prends toujours autant de plaisir à travailler la lettre, voilà, avoir une clientèle. Alors, j'ai une clientèle plutôt orientée vin. C'est un secteur que je connais bien. Je connais bien l'export. Donc du coup, voilà, je suis en capacité de leur apporter mon savoir-faire qui, depuis au fil des années, se fait de mieux en mieux, on va dire, comme le bon vin.
Comment ça se passe d'être femme et chef d'entreprise ?
Comment ça se passe ? Alors c'est une... Il faut appréhender en fait tout ça. C'est-à-dire que peut-être, en tout cas moi pour ma part, personnellement, au départ j'ai été chef d'entreprise en niant peut-être aussi être un peu femme et avec tout ce que ça comporte dans nos façons de voir qui sont différentes et qui sont complémentaires. Mais c'est vrai que à la base c'est d'abord le métier des arts graphiques à la base était très fermé, c'était un métier très masculin. Donc il a fallu que je fasse ma place avec des méthodes un peu de m'imposer de façon peut-être un peu rude. Aujourd'hui, le bénéfice de l'âge fait que je suis très à l'aise dans mes pompes et également dans mon rôle de femme et que j'assume du coup beaucoup plus facilement. Donc j'ai plus d'ambiguïté par rapport à ça, comment je gère les enfants, la maison, le machin, mon entreprise, qu'est-ce que je mets en avant. En fait, je mets rien en avant, je fais un doux équilibre de tout ça et je pense que c'est un peu le temps qui aide aussi à le faire.
Vous venez de prendre la présidence des femmes chefs d'entreprise. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce réseau femmes chefs d'entreprise ? Et deuxièmement, quelles sont vos intentions pour cette présidence ?
Alors le réseau femmes chefs d'entreprise, c'est un réseau qui date de 1945. C'est un réseau national, nous sommes 2000 en France, c'est un réseau international depuis 1950, nous sommes 500 000 dans le monde. Donc il y a une quarantaine d'adhérentes dans la délégation de Vaucluse, des petites boîtes, des plus grosses, toutes sortes d'entreprises en fait. C'est aussi ce qui fait la force de ce réseau. L'idée de FCE, c'est en fait d'avoir une présence sur les territoires. Donc il y a 42 délégations en France, dont celle de Vaucluse qui existe depuis presque 10 ans. Les 10 ans seront début d'année prochaine et ce sera un moment important de la délégation. L'idée, c'est de s'affirmer justement dans son rôle de femme avec notre vision, d'aller chercher des mandats, d'être aussi dans du lobbying, d'avoir une forte présence sur notre territoire, au sein des institutions, au sein des chambres de métiers, au sein de la CCI, des prud'hommes, etc. Donc ça, c'est important qu'on soit représenté. Aujourd'hui, on le sait. Alors, il y a moins de femmes chefs d'entreprise que d'hommes. Donc, on garde cette proportion, mais de façon même accentuée, puisqu'on voit beaucoup moins de femmes au sein des différentes représentations. Donc c'est la force de FCE, c'est ça, c'est d'aller chercher des mandats, d'aider les adhérentes à se positionner et puis surtout également avoir cette convivialité réseau qui est très très importante.
Combien y a-t-il d'adhérentes à la délégation Vaucluse ?
Une quarantaine. Donc aujourd'hui, l'objectif pour moi, FCE, c'est une présidence sur 2 ans, renouvelable 2 fois. Donc au maximum, ce sera 4 ans. En tout cas, là, c'est pour 2 ans. C'est que nous gagnons en visibilité sur notre territoire. Voilà, c'est une très belle association. On a la chance d'avoir une visibilité qui s'accentue au niveau national avec notre présidente qui est Anne-Sophie Panseri, qui a une très belle boîte, Maviflex. Donc l'idée, c'est ça. Ça va être de faire parler de nous et de nous faire voir et de nous faire entendre petit à petit.
Nous étions à Flassans pour rencontrer Sandra Vic et nous sommes déplacés de quelques kilomètres pour aller à Bédouin et rencontrer un de ces chefs d'entreprise dynamiques qui ne connaît pas le mot problème. Il s'agit de Jeannette Riahi, qui est une ancienne sportive de haut niveau, comme elle va nous l'expliquer, et qui a fondé une société de conciergerie privée. Jeannette Riahi, dont on va vous reparler un petit peu plus tard avec un autre des projets dans lequel elle est impliquée, puisqu'elle fait partie des organisateurs des apéros entrepreneurs qui vont fêter leur 3e anniversaire bientôt. Voici donc maintenant Jeannette Riahi.
Jeannette Riahi pour l'entreprise Jeannette & Co, qui est une entreprise de conciergerie privée spécialisée dans les maisons secondaires.
Comment ça s'est passé, la création de cette entreprise? Comment le projet est venu? Comment l'idée vous est venue?
Alors, l'idée de la création de cette entreprise, en fait, je pense que je l'avais un peu dans la tête depuis pas mal de temps. Pourquoi ? Le choix de créer, après, peu importe l'activité, mais le choix d'entreprendre, c'est quelque chose que je n'avais pas compris quand j'avais 20 ans. Mais ensuite, j'ai su, à 39 ans, mettre un mot derrière. Parce que j'ai eu de la chance d'avoir des fonctions qui m'ont permis d'entreprendre, même en ayant le statut de salarié. C'est un état d'esprit que j'ai travaillé en 20 ans. Et ensuite, j'ai eu une occasion, quand j'ai eu mon 3e enfant, de m'arrêter sur un congé parental. Et je me suis dit, tiens, je vais maintenant mettre un terme dans ce que je fais et travailler et créer une entreprise qui me ressemble, vraiment. Et après l'entreprise, j'ai fait un choix d'activité, parce qu'au départ, je suis quand même dans le sport depuis 20 ans. Et là, je suis passée en conciergerie privée qui n'a rien à voir dans l'activité, mais dans la conception, la réflexion, je me retrouve complètement.
C'est quoi votre regard sur femme et chef d'entreprise?
Alors, mon regard sur femme et chef d'entreprise, quand vous m'avez parlé de ce sujet, Pierre, ça m'a fait sourire. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, en 2017, dans un pays dit développé, je ne comprends pas qu'on se pose encore la question entre la notion de femme et la notion d'entrepreneur. La femme existe depuis 5000 ans, donc elle a sa place aujourd'hui dans n'importe quelle société, quelle que soit la connotation religieuse, quelle que soit la connotation économique, sociale et autre. Une femme, elle a sa place, une femme, elle a ses fonctions de femme et l'homme a ses fonctions d'homme. La femme a toujours travaillé, que ce soit de manière informelle. Une femme a toujours accompagné son mari dans ce qu'elle fait. Elle a toujours accompagné, dirigé sa famille, qui, je pense, à mon sens, est la plus grande entreprise qu'on puisse gérer. Qu'on ait 1, 2, 3 enfants, peu importe la fratrie, une femme a toujours ses fonctions-là. C'est quelque chose qu'elle sait faire. Cependant, dès que la femme a voulu être dans l'entrepreneuriat de manière officielle, ça veut dire gagner de l'argent, s'épanouir, etc., on se pose des questions. Donc ça m'interpelle aussi.
Vous avez déjà eu des moments où vous avez eu l'impression de voir des regards qui étaient négatifs liés au fait que vous étiez une femme?
Alors aujourd'hui, par rapport à mon expérience, au niveau sport, jamais. Jamais. Alors je ne sais pas pourquoi. Au niveau sport aussi, dans l'activité que je pratiquais. Cependant, je vais faire un parallèle avec le championnat du monde du handball qui a eu récemment. Il n'y a eu qu'une seule fois, si je me trompe, ou très peu, de femmes arbitres. On n'a eu que des hommes. C'est étonnant. On connaît des femmes arbitres de très haut niveau, elles sont compétentes, c'est un... voilà. Et cependant, je me pose la question. Pourquoi il y a eu très peu de femmes arbitres pour arbitrer des matchs de niveau international pour ce championnat du monde? Donc voilà, quand j'ai regardé, je ne comprenais pas trop quoi. Alors qu'on se dit qu'on est avancé. Cependant, après, dans le niveau départemental ligue dans lequel j'ai évolué en tant que joueur handball, en tant qu'handballeuse, pardon, ça se passe très bien, il y a beaucoup de femmes. Qui sont entraîneurs, il y a beaucoup de femmes qui animent, il y a beaucoup de femmes qui sont formateurs, qui travaillent à la Ligue, que je connais très bien et que je les salue pour la Ligue de Provence de handball, des secrétaires, des entraîneurs, etc. Mais cependant, la différence, elle se fait, je pense, en fonction du niveau où la femme a envie un peu plus de se présenter. Je fais un parallèle aussi, parce que je pense qu'il y a une hypocrisie dans notre société au niveau de l'éducation nationale. Il faut savoir qu'en maternelle et en primaire, c'est une majorité féminine et non masculine. C'est étonnant. Pourquoi? Et là, c'est tout à fait normal. Après, quand on passe au lycée et dans les grandes écoles, c'est le côté masculin qui domine. Je m'interroge. Après, on parle de... Donc là, on est sur un niveau, on va dire, monsieur, madame lambda, enseignant, etc., dans le sport, etc. On passe au niveau politique. On élit des gens qui nous représentent. Des gens qui représentent nos valeurs, d'accord? Des gens d'y évoluer. Cependant, je suis interpellée, j'ai entendu ça pas plus tard qu'hier dans une radio, que seulement 16% des femmes étaient mères en France. 16%. Je suis effarée. Alors je crois qu'il y a un paradoxe, je ne maîtrise pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Alors c'est pour ça qu'il y a tellement de choses à dire entre la femme et l'entrepreneur aujourd'hui, que je ne vais pouvoir uniquement en parler sur mon vécu en tant que chef d'entreprise. Autrement, on y passerait des jours et des heures si on commence à faire le parallèle avec le côté politique, le côté social, le côté culturel, le côté religieux. On s'y perdrait, sachant que c'est quand même passionnant. Mais je reste convaincue qu'il y a une hypocrisie énorme dans notre esprit aujourd'hui et que j'aimerais un jour que ça change. J'y crois, je suis peut-être philanthrope, mais j'y crois, voire même candide, naïve, mais j'y crois en valeur aujourd'hui de ce qu'on peut rapporter nous, un acteur lambda comme je suis, et de changer les choses. Et moi, je le fais au quotidien. Et la femme a de plus en plus du mal à trouver sa place dans la société parce qu'on ne comprend pas pourquoi maintenant elle veut être à la fois à la maison et à la fois travailler. On parle de mémoire cellulaire. Je crois qu'il y a certains hommes dans leur esprit, sans être misogynes ou sexistes, ils ont gardé la mémoire cellulaire de nos ancêtres, mais pas forcément la bonne, celle qui a évolué. Et ça, ça me dérange beaucoup, parce que autant il y en a qui le comprennent très bien, et autant il y en a qui s'y restent obstinés, têtus en disant « mais non, une femme reste à la maison ». Bien sûr qu'une femme a sa place à la maison, mais une femme aussi a sa place dans la société, en travaillant et en étant ce qu'elle est. On est complémentaires, on n'est pas l'un contre l'autre. Il y a une notion de respect, il y a une notion de partage, et on est ensemble. Il n'y a que deux êtres humains sur la planète, l'homme et la femme. Il y a deux genres, c'est tout. Donc je ne comprends pas pourquoi on se pose la question de se dire qui fait quoi. On ne cherche pas à comprendre pourquoi on dit ben, l'autre fait plus que l'autre. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. On est ensemble. Et ça, après, dans le milieu familial, je pense que ça a évolué, mais dans le milieu de l'entreprise, c'est un peu plus différent. C'est-à-dire, je m'explique. En fonction de ce qu'on fait, on est dans une petite entreprise où on doit faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, on nous donne le sentiment d'exister. C'est bien, petite entreprise, 30 000 euros de chiffre d'affaires maximum, elle exprime, toi, chef d'entreprise, tu peux y aller. Et quand on veut prendre un peu plus de responsabilité, quand on est sur un secteur d'activité dit masculin, là, la femme dérange. Et quand on n'arrive plus à se dire, mais au niveau intellectuel, elle est mieux qu'un homme, eh bien, on l'attaque sur sa sexualité, on l'attaque sur son apparence physique, etc. Parce qu'en fait, on ne sait plus quoi dire. Donc, et ça, c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a une solution à ça. Je ne sais pas. Je m'interroge pour nos enfants. Je m'interroge pour tout ça. Parce que ce qui est extraordinaire, on parle de l'ouverture d'esprit sur les mariages gays, etc. Mais avant de parler de mariages gays, etc., on n'est pas capable, entre hommes et femmes déjà, de se positionner. Alors là, à nouveau, je m'interroge aussi.
Au milieu de nulle part, loin de tes mots, de tes regards, une rue abandonnée, nos âmes pourraient se retrouver. Ne sortons pas les armes, elles ne pourront sécher nos larmes. Nous avons oublié comment notre amour est né. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Le temps doit s'arrêter. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Nous allons tout changer. Noyés dans les remords, on ne sait jamais plus qui a tort. La vie n'est pas docile, tout ne tient qu'à un fil. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Le temps doit s'arrêter. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Nous allons tout changer. We'll be right back. Parfois on oublie de rêver, parfois on oublie.
Chef d'entreprise, homme ou femme, et la plupart du temps quand on est artisan et commerçant, souvent le conjoint aide, produit, compte, range. Bref, le conjoint devient souvent indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Mais lui accorde-t-on le bon statut, le meilleur des statuts? C'est le sujet de la chronique mensuelle de Mélanie Chex du cabinet d'experts comptables Argonne.
Bonjour Mélanie, ce mois-ci on reste dans le thème des femmes chefs d'entreprise ou des femmes dans l'entreprise. On va aborder le statut du conjoint qui, dans ce cas-là, va effectivement plutôt concerner les épouses. Il y a trois statuts, je crois.
Alors effectivement, il y a trois statuts possibles pour le conjoint, alors qui peut être l'épouse, mais qui peut être l'époux aussi. Il y a premièrement le statut du conjoint associé, ensuite le conjoint salarié ou le conjoint dit collaborateur. On va commencer par le conjoint associé qui impose de détenir des parts dans l'entreprise avec son conjoint. Donc ça n'est pas éligible par exemple à l'entrepreneur individuel qui par définition ne peut être que seul. Donc ça va s'appliquer au conjoint qui veut pouvoir bénéficier d'une partie des résultats d'une société qu'il a montée avec son conjoint. Ce conjoint-là peut être simplement associé, c'est-à-dire prétendre à une partie des bénéfices de l'entreprise, peut être aussi associé et co-gérant, et à ce moment-là avoir une réelle activité dans l'entreprise et percevoir un salaire au titre de cette activité comme le conjoint principal. Ensuite, il y a le statut du conjoint salarié, donc comme dans toutes les autres entreprises, le conjoint va bénéficier d'un contrat de travail et devoir respecter toutes les règles de droit du travail qui s'en vont, notamment le lien de subordination avec l'employeur, un travail effectif, avoir un salaire normal, c'est-à-dire au minimum le SMIC, donc il doit être pas trop bas et pas non plus trop haut, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il soit en lien avec l'activité exercée et les compétences de celui qui l'occupe. Et le conjoint ne doit pas s'immiscer dans la gestion, c'est-à-dire que techniquement, normalement, il n'est pas censé aller à la banque et signer les chèques pour le compte de l'entreprise. Dans le cas où le conjoint s'immiscerait dans la gestion, le principal risque, ce serait que Pôle emploi ne reconnaisse pas l'indemnisation en cas d'arrêt d'activité, en considérant que le conjoint était chef d'entreprise et non pas salarié avec lien de subordination.
Et le troisième statut dont on va parler, il s'agit du statut de conjoint collaborateur.
Alors, le statut de conjoint collaborateur, c'est un statut un peu particulier, donc il ne faut pas que le conjoint soit ni associé ni salarié, bien entendu. Ça correspond réellement au conjoint qui travaille dans l'entreprise en totalité ou partiellement, quelques heures par semaine. Il faut quand même que le travail soit effectif et régulier. Il n'y a pas de rémunération qui est prévue, il n'y a pas de contrat de travail à respecter, le conjoint travaille quand il veut, autant que nécessaire. Il n'y a pas de rémunération proposée pour les services, donc ça permet d'alléger la structure de l'entreprise individuelle ou de la société. Et des cotisations sociales sont versées volontairement par l'entreprise pour pouvoir préparer une protection sociale de ce conjoint travaillant gratuitement. C'est malheureusement réservé qu'aux époux ou aux partenaires de PACS. Les concubins ne sont pas éligibles à ce statut-là, qui peut encourager éventuellement certains messieurs à sauter le pas. Le principal avantage, c'est vraiment d'offrir une protection sociale et une protection de retraite à ces femmes ou ces hommes qui travaillent dans l'ombre d'un conjoint qui cotise. Donc on a tendance à penser que ça va être un coût supplémentaire pour l'entreprise, c'est pas forcément le cas. Il y a plusieurs de régimes de cotisation, soit une cotisation volontaire complémentaire, c'est-à-dire que le chef d'entreprise va cotiser sur sa base de cotisation habituelle et qu'on va verser d'autres cotisations complémentaires sur la base d'un revenu forfaitaire pour son conjoint. Mais on peut aussi décider de partager l'enveloppe de cotisation réelle entre monsieur et madame pour que chacun puisse avoir sa protection sociale à 50-50, à 2/3, 1/3. Il y a plusieurs régimes qui sont proposés par les organismes de retraite et de cotisation sociale. Je vous encourage à vous renseigner pour trouver le schéma le plus approprié puisque, bien sûr, si on partage les enveloppes de cotisation, on partage aussi les droits à la retraite que l'on retrouvera à la fin.
On vient de voir donc les trois statuts du conjoint, mais quels sont les risques de ne pas avoir de statut ou de ne pas affecter de statut à son conjoint?
Alors, il y a deux risques. Je vais dire qu'il y a un risque légal, c'est-à-dire que le conjoint qui va travailler dans l'entreprise mais qui n'a pas de statut va être considéré comme un travailleur dissimulé. Donc, avec tous les risques qui s'en suivent de redressement URSSAF, de redressement pénal pour travail au noir, pour parler clairement. Le deuxième risque est plutôt un risque induit, c'est-à-dire que le conjoint qui va travailler sans être déclaré et sans avoir de statut ne va pas pouvoir prétendre à une protection personnelle, et s'il arrive un pépin au chef d'entreprise, eh bien il se retrouve avec droit à rien ou une toute petite partie de réversion de pension de retraite par exemple. Je vous parle pas du cas des divorces où madame n'ayant jamais travaillé officiellement et ayant été au service de la famille et du mari se retrouve avec de grandes difficultés financières pour assumer son quotidien.
Eh bien, j'espère que toutes ces informations puissent servir à éclaircir certains de nos auditeurs. Dans tous les cas, si vous avez un doute sur le statut de votre conjoint, il faut consulter votre expert comptable. Il est aussi là pour vous conseiller, pas seulement pour éditer votre bilan. Ne l'oubliez pas. Passons à l'agenda du mois. Deux dates à retenir ce mois-ci. En premier lieu, le 2 mars. Pierre en a parlé tout à l'heure en parlant de Jeannette Riahi. Le 2 mars aura lieu le 3e anniversaire des apéros entrepreneurs de Carpentras. Alors, qu'est-ce que ce moment? Alors, tous les premiers jeudis du mois, dans des lieux qui tournent, des entrepreneurs se retrouvent autour d'un verre, d'un buffet, d'un repas, pour parler souvent d'autre chose que d'entreprise. Parce qu'on l'a vu, on est aussi parents, responsables d'associations, passionnés de musique ou de cuisine, férus de cinéma ou de livres. Et c'est parfois sympa de parler d'autres sujets après ce qu'on peut appeler le temps de la boîte. Pour avoir plus d'infos sur les apéros entrepreneurs de Carpentras, rendez-vous sur la page Facebook Apéros Entrepreneurs Carpentras. On vous met d'ailleurs le lien sur le site jour8.com ainsi qu'une interview vidéo des personnes qui sont à l'origine de ce mouvement sur Carpentras. Une autre date, Pierre?
Et cette date, c'est le 1er mars, le mercredi 1er mars, à la salle des fêtes de Sarrian, où aura lieu la 4e édition du Forum économique des entrepreneurs du Comtat Venaissin, qui est une co-organisation entre l'association d'entrepreneurs Mucapli et Jour 8, notre web média économique du Vaucluse. Ce forum, en présence du préfet, en présence du président du conseil départemental, en présence du 3e vice-président du conseil régional et de beaucoup d'élus locaux, ainsi que de représentants des fédérations professionnelles, rassemblera quelque chose comme 200 entrepreneurs. L'idée, c'est de faire dialoguer à la fois les pouvoirs publics et les entrepreneurs pour améliorer la situation des entreprises, pour améliorer la production de biens communs qui se fait dans ce cadre. Donc ce forum est entièrement gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur ce forum en allant sur le site billet web et en cherchant Forum des entrepreneurs. Ensuite, eh bien, la prochaine date, c'est tout simplement le 28 mars pour l'épisode 5 de l'épisode 6 de la quatrième saison d'Envie d'entreprendre. Et là où nous aurons une thématique printanière, la fraise et la cerise prennent leur marque. En effet, les producteurs de fraises et les producteurs de cerises sont en train de mener encore un certain nombre de démarches pour faire mieux connaître et protéger leurs produits.
Alors, vous retrouverez toutes les infos dont on vous a parlé, les contacts, les liens de réservation et autres, et bien sûr toujours les podcasts de cette émission et de toutes les précédentes sur www.jour8.com, rubrique « Envie d'entreprendre ». Et puis bien sûr sur notre Facebook, et bien sûr restez connectés avec Radio Territoire Ventoux sur Facebook et sur RTVFM. À bientôt, le mois prochain ce sera le printemps. D'ici là, portez-vous bien.
Au revoir. Au revoir. Pierre. Au revoir Jean-Marc.
Envie d'entreprendre, l'actualité de l'économie locale avec jour8.com.
Gone, it's alright. 'Cause I'll be back before it's daylight. And if you feel that something ain't right, I'll be back before it's daylight. If you see me gone, it's alright. 'Cause I'll be back before it's daylight. And if you feel that something ain't right, don't listen to the word. comprends.